Tu vois, le monde se divise en deux catégories.
Non.
Si.
Oh, j'ai longtemps observé les humains.
Alors moi, je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs.
Là, ça va faire du bruit.
On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui ne nous servent à rien.
Mais enfin, Didier, il est 3h du matin.
C'est toujours illégal de pratiquer une autopsie sur quelqu'un de vivant.
Si une fille qui se trouve devant un garçon et qui lui demande de l'aimer,
c'était votre sœur.
J'ai pas de sœur.
On va voir ce qu'on va voir.
Bonjour, je m'appelle Terry West. Et vous?
Priscilla Beaulieu.
Vous aimez Elvis Presley?
Bien sûr, comme tout le monde.
Alors qu'est-ce qu'ils écoutent les jeunes ces temps-ci?
Bobby Darin et Fabian. Et vous?
Bonjour à tous, c'est un plaisir de venir vous parler aujourd'hui de Priscilla, le grand retour de Sofia Coppola sur écran large, extrêmement attendu. C'est un biopic qui est tout droit adapté des mémoires du personnage éponyme, Priscilla Presley, qui est par ailleurs la productrice du film. Au casting, on a Kaylee Spenny, qui est une actrice qui est tout juste montante dans le rôle de Priscilla, et Jacob Elordi, que l'on ne présente plus dans le rôle d'Elvis. Sofia Coppola se saisit de ce récit de femme de star, incarnant donc la fameuse expression « derrière chaque grand homme, il y a une femme ». Et d'emblée, le film se présente comme le revers sombre, lourd et silencieux du biopic de Baz Luhrmann sur Elvis. Son personnage chez Coppola est extrêmement différent de ce que le film précédent a pu nous en faire comprendre. Et je vais tout de suite parler de l'éléphant dans la pièce. Priscilla a 14 ans lorsqu'elle rencontre Elvis, qui lui en a 24. Le film le montre, mais est-ce qu'il critique cette différence d'âge? C'est difficile à dire. En effet, puisqu'on est plongé dans la subjectivité, l'émotionnalité de Priscilla, tout au long du film, on se pose la question de... Est-ce qu'on doit déplorer, condamner ce que l'on voit, ou est-ce qu'on doit jouer le jeu de cette histoire d'amour qui est si étrange? Le sentiment le plus prégnant, c'est la solitude, l'attente et l'abandon de cette jeune fille qui a été sortie de son cocon familial par la force de l'amour et qui se retrouve donc dans cet énorme manoir décoré de façon extrêmement kitsch. On voit l'évolution de son décor, elle passe de cette maison en Allemagne à la villa d'Elvis dans laquelle il ne vit pas puisqu'il est en tournée en permanence. On voit aussi cette énorme différence de taille entre Priscilla et le décor, Priscilla et Elvis, Priscilla et la vie que Elvis lui a imposée. Et en fait, cette différence de taille, visuellement, elle est marquante, non seulement symboliquement, mais aussi émotionnellement, puisqu'il a une emprise sur elle. Elle essaye de partir plusieurs fois, mais elle ne le fait pas, puisqu'elle l'a connu à 14 ans, je le rappelle. Partir de tout ce qu'on a connu de l'amour, c'est impossible. Ou peut-être pas, puisque 24 ans après qu'elle l'ait rencontré, elle parvient enfin à divorcer. Le film est réussi visuellement, car il semble être comme un album photo de souvenirs. Le grain est magnifique. Sofia Coppola reprend vraiment les rênes de son style après un dernier film, On the Rock, qui semblait extrêmement éloigné du reste de sa filmographie. On perçoit les mêmes plans contemplatifs que Virgin Suicide ou Lost in Translation. Et ce personnage classique qu'on peut trouver chez Coppola, de la femme triste, de la femme seule, qui est parfait en fait avec cette biographie de Priscilla Presley, où elle dit elle-même qu'elle fait totalement confiance à la réalisatrice pour raconter son histoire. Notons aussi qu'il n'y a aucune musique d'Elvis Presley dans le film. Choix ou problème de droit, on ne le sait pas, mais je trouve que c'est très intéressant, ça nous permet de vraiment nous concentrer sur Priscilla. Bien que, bizarrement, Elvis, puisqu'il est présenté dans tous ses aspects les plus atroces, qui ne sont pas montrés dans le biopic de Baz Luhrmann, ou qui ne sont pas connus par le grand public, semble parfois être plus intéressante Priscilla, parce que Priscilla est vraiment montrée comme une fillette tout au long du film. Elle ne parle pas beaucoup, elle dépend vraiment de la présence d'Elvis Presley dans le film. Est-ce que c'est une symbolique ou une faillite du film? On ne le sait pas. En revanche, ça nous permet, en tant que spectateur, de nous confronter en fait à la réalité de ce que c'est d'être une compagne de superstar, compagne de personne qui a des tonnes de groupies, aussi d'une personne addict et aux gros problèmes de santé en général. Tous ces aspects forcent la solitude. La solitude de Priscilla qui est en fait tout de suite à donner au spectateur. Et c'est peut-être en ça que le film est pesant pour certaines personnes. C'est pas un film à scandale comme on pourrait l'attendre. C'est pas un film documentaire qui expose des faits sur la relation d'Elvis et Priscilla. C'est vraiment comment Priscilla s'est sentie. Ça s'arrête là. Et c'est peut-être trop peu. Et c'est pour ça que, moi, c'est la première fois depuis très longtemps qu'il y a eu les crédits et je me suis dit, mais je suis là depuis 20 minutes, j'ai rien compris. J'ai rien compris, pas dans le sens où le film n'est pas compréhensible, dans le sens où je pensais que le film n'avait pas commencé. Parce que c'est vraiment juste un album de souvenirs, d'émotions. Moi, j'ai un problème avec le film qui est que tout le film paraît être une introduction à quelque chose de plus grand, qui est la vie de Priscilla après Elvis. J'ai du mal à comprendre pourquoi le film s'appelle Priscilla, puisqu'il ne décrit que sa relation avec Elvis. Et c'est peut-être justement un choix paradoxal pour rappeler au spectateur que Priscilla Presley n'est pas restée Presley toute sa vie. Elle deviendra vraiment elle-même qu'au moment où elle réussira à quitter l'emprise d'Elvis.
Gina!
Bonjour à toutes et à tous, je vais vous parler aujourd'hui de Jeunesse de Wang Bing, le premier épisode donc d'une trilogie qui s'intitule Le Printemps. Donc nous sommes à Zili, à 150 km de Shanghai, dans une petite ville dortoir dédiée à la confection textile, qui compte près de 18 000 ateliers. Et dans cette ville, Wang Bing va nous filmer des milliers de jeunes qui ont quitté leur campagne natale en quête d'une vie meilleure. On découvre tout au long du documentaire leur cadence de travail infernale, 11 heures par jour, 6 jours sur 7, mais on découvre aussi leurs espérances d'une vie meilleure, leurs amours, leurs amitiés, leur vie commune dans les ateliers et dans les dortoirs qui sont au-dessus des ateliers. Là où son film le plus connu, À l'ouest des rails, montrait une industrie en déliquescence et des ouvriers âgés désormais désœuvrés, Jeunesse nous montre ce que constitue une partie de l'industrie moderne chinoise, à l'échelle de ces petits ateliers textiles, loin des grandes usines de notre imaginaire collectif. Nous avons dans ce film une véritable chorégraphie des ouvriers, avec des gestes parfois tellement rapides et précis qu'on a l'impression que l'image est accélérée. Les jeunes n'hésitent pas à confronter leur patron colérique, ils menacent parfois même de se mettre en grève. D'aucuns trouveront les 3h35 dissuasives, mais Wang Bing a tourné sur plusieurs années, et cette durée est nécessaire pour montrer l'évolution de ces jeunes, la répétitivité de leur travail, les ateliers qui font faillite et qui licencient à tour de bras, que toute interruption finalement trahirait nécessairement. Alors ce que j'ai aimé tout en particulier, c'est le fait de filmer le travail et de filmer un peuple. Wang Bing nous filme un peuple au travail, une chose qui parfois, même souvent, est très mal faite au cinéma, romantisée. Ici, c'est pas le cas. Alors je dis bien un peuple parce que c'est la jeunesse qui est filmée ici comme un peuple à part entière. Wang Bing ne nous dit pas « Ah, c'est une jeunesse ouvrière exploitée, mais regardez, elle a de l'énergie, elle a de la joie de vivre, elle a de la résilience. » Non, il part de la singularité de ces ateliers textiles pour tendre vers un universel qu'on perçoit dans les interactions de ces jeunes de notre âge. Ils ont moins de 20 ans parfois, ils se chambrent, ils râlent, ils se battent, ils draguent, ils font la fête, ils vivent finalement. Mais on sent quand même, en filigrane de leur vie, l'aliénation du travail qui contamine leurs moments de joie, puisque ces moments semblent finalement contingents au travail et non pas un moyen de s'en extraire. Il n'y a pas de séparation entre leur vie commune dans les ateliers et leur vie intime dans les dortoirs au-dessus des ateliers. C'est d'abord et avant tout au sein de leur travail que naissent leur complicité. Wang Bing, je le disais, ne romantise pas cette classe ouvrière. On échappe à la lourdeur de se dire « Ah, c'est un beau documentaire hein. » Et on échappe à une voix-over qui nous imposerait une esthétique et une morale. Ou pire, un message. Il n'y a pas d'exploitation de la misère ou du voyeurisme dans ce film. En fait, l'image, elle parle pour elle-même. L'image, elle est brute. Et de la brutalité de ces ateliers textiles, il y a une humanité collective qui émerge, une tendresse en fait qui est observée avec pudeur, parfois avec distance par le réalisateur. À travers sa mise en scène et son montage, Wang Bing prend le coton disparate du réel de ces ateliers, en apparence différent, et les tisse entre eux, à travers la dialectique de son montage qui unit les corps du labeur ouvrier et les sentiments de leur être profond. Wang Bing reste définitivement l'un des rares documentaristes à capturer le hasard du réel d'un monde tel qu'il est, tout en réussissant à s'attarder sur des instants que sa mise en scène ne trahit jamais.
Est-ce que par hasard t'as rêvé de moi ?
Si j'ai rêvé de toi, c'est ce que tu me demandes ?
Oui. Il y a une centaine de messages, il y a quelqu'un qui veut m'interviewer.
C'est étrange, tu devrais peut-être t'arrêter une minute avant de faire quelque chose de drastique.
Pourquoi moi ? J'en sais rien, je suis peut-être spécial.
Dream Scenario, c'est une comédie dramatique réalisée par Christopher Borgli, sortie le 27 décembre 2023 en France. On rencontre Paul Matthews, qui est professeur de bio à la fac, et qui mène une vie très banale, plutôt boring, jusqu'au jour où le monde entier commence à rêver de lui. Un véritable phénomène épidémique débute, et Paul devient le centre d'intérêt de nombreux inconnus qui disent tous le rencontrer dans leurs rêves ou leurs cauchemars. Alors qu'il se transforme en star des réseaux sociaux, sa vie prend un nouveau tournant. Paul Matthews, c'est Nicolas Cage, dont la réputation n'est certes plus à refaire, mais qui avait bien besoin d'un coup de projecteur pour le dépoussiérer. Et le rôle a même l'air écrit spécialement pour lui. Un homme dans la fin de sa cinquantaine, débonnaire, un visage familier qu'on aime bien, mais qu'on garde un peu comme un loser. Nicolas Cage, c'est l'acteur préféré de nos parents, celui qui a eu son heure de gloire, mais qui appartient plutôt à avant. Et Paul Matthews, c'est pareil, ses élèves l'aiment bien, mais ne le respectent pas vraiment. Ses filles ont un peu honte de ses blagues de boomer, et son couple s'essouffle dans une routine paisible. Christopher Borgli, réalisateur norvégien, était déjà à l'affiche un peu plus tôt dans l'année avec Sick of Myself, une autre comédie dramatique dans laquelle le personnage principal se rendait littéralement malade dans l'espoir d'attirer l'attention. On retrouve dans Dream Scenario ce goût pour la satire de société, société de l'égocentrisme pour l'un et société de la cancel culture pour l'autre. Il y a un peu de Luis Buñuel ou de Michel Gondry dans ce film produit par A24 et Ari Aster, le réalisateur de Midsommar ou Hérédité. Perso, je suis totalement fan. Dream Scenario, c'est le premier film que j'ai vu cette année et c'est déjà mon film préféré de 2024. Et c'est toujours en salle.